Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchière.
19h19 sur RTL. C'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir Virginie Leguet.
Bonsoir.
Avec la rédactrice en chef de Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy.
Bonsoir.
Avec le chroniqueur de RTL notamment. Bonsoir Nicolas Domenac.
Bonsoir.
Et un nouveau venu, tiens, je le connais. Bonsoir Stéphane Blakowski.
Oh Marc-Olivier Fauchière, oh, vous êtes là.
Moi, je sais ce que je fais là. Vous êtes nouveau. Moi, je suis là depuis 5 ans.
J'ai dû me tromper de studio, je suis désolé. Excusez-moi, je vais sortir immédiatement.
Allez, PMA, le grand flou, donc procréation médicalement assistée. Après avoir annoncé l'ouverture de la PMA à toutes les femmes dès l'année prochaine, Marlène Schiappa, ou Schiappa, je ne sais pas comment on prononce son nom.
Schiappa.
Bon, on s'est montrée plus prudente hier. Elle est désormais sur la même ligne que sa collègue de la santé pour qui il faudra attendre les états généraux de la bioéthique. Et donc, ça arrivera qu'en 2019, le vote. Et pour Gérard Collomb, hier sur RTL, la PMA n'est pas une priorité. Ça peut poser problème. Il faudra mettre des garde-fous. Alors, le gouvernement respectera-t-il cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron? Encouragez-vous à le faire ou pas sur les réseaux sociaux. Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, c'est reparti pour la valse hésitation et les débats à n'en plus finir. Alors que pour le Code du Travail, les ordonnances sont passées en 2 mois, soupire Guillaume. Caroline Dehaas rappelle que la PMA pour toutes les femmes, c'est l'égalité et un engagement de campagne, ça devrait déjà avoir été signé. Commencez par expliquer que ça va être compliqué, parler de respect des consciences, c'est déjà reculé, regrette-t-elle. On n'a donc rien retenu du débat autour du mariage pour tous. Bertrand pense que ça passera, mais ils en profitent pour créer des mois de diversion pendant qu'ils font passer des régressions sociales. Michel n'est pas si pressé. La PMA, c'est pas la préoccupation de la majorité des femmes. Elles luttent d'abord pour leur salaire et contre la violence, assure-t-elle. Même à gauche, certains accusent la PMA d'être avant tout un gigantesque marché. Loin d'abolir les inégalités, la PMA, très chère, les aggravera, assure Alexis. En apprenant qu'une large consultation sera organisée en 2018, Maje rétorque que la promesse, c'était la PMA, pas une consultation. La différence, c'est le nombre de LGBT qui vont se suicider, prévient-elle. J'espère que ce petit jeu avec nos vies va bien servir politiquement, quitte à nous mettre en danger, autant que ça soit utile, grince-t-elle. Oui, quand on voit qu'un ministre comme Collomb dit qu'avec la PMA, on sera tous cousins, s'énerve Tim. Mais Damien rétorque que prendre du temps n'a rien à voir avec le sexisme ou la lesbophobie. On veut éviter de créer des enfants déstructurés sans père et sans vrais grands-parents, dit-il. Nos gosses renonceront à se faire soigner pour que des dames fassent gratis joujou au papa et à la maman, tempête encore argent. Puis Eric lui répond que les lesbiennes payent aussi des impôts et que même les familles homophobes en profitent. En tout cas, la PMA, c'était la seule promesse pro-LGBT de Macron, la seule, soupire Sapi pour finir.
Elisabeth Lévy, donc cette reculade du gouvernement Macron, vous la comprenez ?
Oui, je la comprends, je l'apprends, mais je voudrais dire une chose avant, c'est que moi, ce qui me désolerait, c'est qu'on ait de nouveau ce débat, un débat aussi violent, et... non mais je suis sérieuse, aussi virulent que quand on a commandé la manif pour tous, parce qu'on touche aux questions de la filiation. Il faut que les gens qui veulent ces changements comprennent qu'il s'agit d'une révolution, et ils le disent d'ailleurs, ils disent c'est une révolution, et que cette révolution donc peut être discutée. C'est-à-dire, on doit avoir un débat où toutes les paroles vont être légitimes. Et ça, je
excusez-moi,
pense
mais
qu'on
le débat sur la filiation, on l'a déjà eu sur le manif pour tous, et
oui,
c'est
mais
réglé,
justement, le débat sur la filiation. Justement, Marc-Olivier, je vous rappelle que beaucoup de gens, que l'affaire du mariage pour tous, le débat, c'était à cause de la filiation. Maintenant, on y arrive, je crois qu'Emmanuel Macron, lui, a compris, je ne crois pas qu'il ait changé d'avis, lui, mais je pense qu'il a compris qu'il allait repartir pour un débat extrêmement houleux. Et moi, je plaide vraiment pour qu'on échange des arguments sur ces questions et qu'on arrête de nous dire que c'est juste une question d'égalité ou de justice sociale. Si vous voulez, il ne s'agit pas seulement de ça, parce que la justice sociale et l'égalité ne consistent pas à abolir toutes les différences. Là, on veut abolir une différence entre la sexualité homosexuelle et la sexualité hétérosexuelle.
Mais j'allais vous dire, Elisabeth, c'est trop tard, c'est déjà fait avec le mariage pour tous. Donc,
c'est... Bah, écoutez, apparemment, alors pourquoi on discute si c'est trop tard ?
C'est les associations,
on discute,
les associations
si c'est
le déplorent en disant, justement, on va rediscuter d'un truc dont on a déjà discuté.
Mais vous êtes d'accord, mais peut-être il se trouve que dans la loi, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, on peut encore discuter, c'est incroyable, ça. Ça,
alors vraiment, c'est incroyable. Moi, je suis un peu incroyable. Comme Gérard Collomb, je trouve que c'est pas vraiment une priorité. Enfin, si je me mets à la place du gouvernement, effectivement, le fait de relancer un débat sur ce sujet, on a vu un peu l'effet qu'a eu le débat sur le mariage pour tous. Tous, une sorte d'une année entière de paralysie du débat ou de concentration uniquement sur ce thème-là, je comprends qu'il soit plutôt pressé d'engranger des résultats économiques. Quant aux arguments, bah, moi, j'ai un peu lu, forcément, c'était ma première, je me suis renseigné. Et ce qui m'a. Au départ, je voulais surtout. J'étais plutôt pour, je me disais, attends, discrimination, quand même, je suis pas un réac, je peux pas. Et j'ai lu un papier dans Libé, qui est pourtant une source, qui n'est pas une source réac, qui faisait un point
c'est
sur.
Génial, ça.
Sur Cryos, une banque de sperme au Danemark.
Bah,
et finalement, on avait un choix d'enfant un peu sur catalogue. Donc ça partait d'un bon sentiment. On évite les maladies, on évite les malformations, mais on peut aussi choisir la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Et le truc amusant, c'est qu'à un moment, cette boîte, ils ont arrêté de prendre le sperme de roux parce que ça ne se vendait pas. Donc ils ont dit, bah non, on arrête les roux. Et donc on voit qu'il y a une manière
faite de pouvoir choisir son enfant. Tout le monde rigole de Colomb, mais accessoirement.
Et là, je me demande si c'est pas un peu
accessoirement juste cette affaire techniquement, le fait que vous avez dans ces pays-là, vous avez des grands étudiants nourris au cornflakes qui vont vendre leur sperme et qui font donc des dons anonymes et qui après plastronnent devant des caméras en disant moi j'en ai fait 400. Comment vous allez éviter? Je veux dire, vraiment, là, je le dis, comment vous allez préserver, si vous gardez l'anonymat et si les gens ne se baladent pas avec leur code génétique, comment vous allez éviter que des frères couchent avec des sœurs, à la fin des fins?
Ouh là là, quel argument, vous savez...
l'argument, ah, ça y est, l'argument...
Non, mais ça existe déjà, le don de sperme, aujourd'hui, ici, en France, existe déjà.
Ça existe déjà, mais vous savez, Elisabeth...
C'est incroyable, dès que je dis un truc, mon argument sont débiles. C'est pas un argument débile, Nicolas, l'interdit de l'inceste.
Non, j'ai pas dit qu'il était débile, celui-ci. Mais il se trouve que j'ai, très concrètement, une femme qui notamment travaille à l'hôpital, et je peux vous dire que il lui arrive très souvent de retomber sur des cousinages qui ne sont pas repérés et qu'elle est obligée de vérifier par soigner des gens qui ont des maladies génétiques. Donc, c'est pas la PMA ou la GPA qui est à l'origine de tout ça.
Toutes les grandes familles nobles d'Europe ont reproduit entre cousins, et voilà, regardez le
ensuite,
résultat.
Pardon, vous n'avez pas le monopole de la filiation, donc c'est ça que je n'aime pas dans la façon dont le débat s'était noué, c'était pas noué d'ailleurs, dont les affrontements avaient eu lieu. Au fond, on nous expliquait qu'il y avait un modèle, c'était un papa, une maman, deux enfants, d'ailleurs c'était ça dans les manifestations. Non, je veux dire, la démonstration n'a jamais été faite. Et
ça, c'est réalité, l'élevage, c'est pas la filiation.
En réalité, on voit bien... Avec...
L'élevage comme les animaux ou...
vous voyez bien la différence entre le fait d'élever des enfants et le fait de les fabriquer et quand même. Il ne s'agit pas de la façon dont on les
réalité,
élève,
on voit
il
bien...
s'agit de la façon dont on les fait. Et qu'on fasse appel à la technique, pose au moins une question.
Oui, non mais
voilà,
c'est très bien de débattre. Simplement, il ne faudrait pas escamoter quand même une promesse de campagne, un engagement qui a été, au fond, pour lequel des gens ont voté pour Emmanuel Macron. Alors, je ne crois pas que ce sera totalement passé sous la table. Il y a un risque quand même, parce que le gouvernement, il y a des gens qui sont en désaccord avec cette mesure-là, qui ne sont pas prêts, au fond, à mener la PMA, accorder la PMA. Je pense que simplement, on veut faire preuve de plus d'habileté que le gouvernement précédent, en confiant à la ministre de la Santé, qui, c'est vrai, a une douceur évangélique, alors que Mme Schiappa, enfin, on ne sait pas, elle a un style à hystériser, au fond, les Jeannettes de l'Institut Jeanne d'Arc. Donc, ça va être mené autrement. Mais pour autant, soyons vigilants à ce que ce soit pas... qu'on s'en débarrasse pas.
Oui, c'est une promesse de campagne. Les déclarations successives de trois ministres en quatre jours ont été extrêmement contradictoires et floues. Gérard Collomb a semblé renvoyer ça aux calendes grecques. Moi, je crains, mais les 10 minutes qui viennent de s'écouler, dans le fond, confirment mes craintes, que le débat s'engage de nouveau extrêmement mal, comme il s'était très mal engagé pour le mariage pour tous. Et on voit bien déjà que la manif pour tous remonte au créneau, qu'elle se resserre immédiatement de ce projet comme d'un chiffon rouge, qu'elle se remobilise et ça va repartir comme en 40. Et je pense qu'Emmanuel Macron en a parfaitement conscience. Ce qu'il a voulu peut-être aussi donner, c'est peut-être un signal de gauche, alors que pour l'instant, on lui reproche de prendre exclusivement des mesures qui s'adresseraient à un électorat de droite. Mais il semblerait que ce signal de gauche soit un petit peu décalé dans le temps et qu'en tout cas, moi, je ne suis pas bien persuadée que le débat qui a précédé, accompagné et suivi le mariage pour tous ait préparé mieux ou plus intelligemment les Français au débat sur la PMA. Et je pense qu'on retombera exactement dans les mêmes excès.
Non, pas exactement. Ils sont dans les choux, la manif pour tous.
Ils ne sont pas du tout dans les choux. Et vous allez voir comment ils vont se remobiliser. Vous allez voir.
Leur grand combat, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu une première fois avec la loi, une deuxième fois avec François Fillon.
Ils se sont réunis en université d'été.
Mais ils étaient très peu. Ils étaient 200.
Mais vous pouvez toujours décider des choses avant même qu'elles se produisent. Moi, je vous dis qu'ils vont se remobiliser et que ça va remobiliser une partie des Français contre l'autre et que le débat va s'engager.
Il devrait tenir sa promesse maintenant plutôt que d'attendre et laisser le débat pourrir le débat.
C'est ce qu'elle a dit.
Si,
je, précise. J'ai dit que le débat s'engageait déjà mal, qu'il s'engagerait mal. Je ne sais pas s'il doit attendre ou pas attendre. Je pense qu'il a la volonté d'attendre et que probablement Marlène Schiappa s'est engagée un peu trop rapidement et que finalement ils vont essayer de faire traîner ça en durée, sur la durée. Mais je ne suis pas sûre que ça permette de faire quoi que ce soit comme déminage pédagogique que de laisser le débat s'installer.
C'est marrant quand même. C'est marrant quand même. Vous admettez tous qu'il y ait des contestations contre la loi travail qui étaient tout autant dans le programme. Vous admettez tous qu'il y ait des mobilisations. Je voudrais vous expliquer un truc. C'est qu'il y a une France qu'on connaît, qu'on fréquente pas forcément tous les jours quand on habite dans les grands centres urbains, qui a un lien au passé qui n'est pas forcément celui des journalistes parisiens. Et les cadres de la filiation, ça fait partie de ce qui nous lie au passé. Ça ne veut pas dire, ad vitam aeternam, qu'on n'y touchera pas, d'autant plus que, à mon avis, ce que fait la science, je veux dire, on va forcément y arriver, mais il faut arrêter. Et d'ailleurs, même Emmanuel Macron l'a dit, il s'est fait engueuler à gauche quand il a dit qu'il ne fallait pas mépriser ces gens-là.
Pourquoi vous délégitimez ceux qui ne pensent pas comme vous? Ce seraient des journalistes bobos qui ne connaissent pas la France des traditions. Mais pourquoi vous dites ça? C'est ce que vous venez de dire.
Il y a un petit peu de
mais
ça.
Mais non, vous n'avez pas le monopole de la France de la tradition.
C'est-à-dire, indépendamment du débat, comme disait Elisabeth, on n'arrêtera pas la science. Donc dès lors que la possibilité technique existe, on ne connaît pas de possibilité technique que l'homme n'ait pas exploité.
Mais le fait que la technique soit à ce point mobilisée
déjà à l'étranger ceux qui veulent y
juste
avoir
un dernier mot, la reproduction sans sexuelle, sans
rencontre, on se reproduit pas, on procrée.
La procréation sans sexe, excusez-moi, je veux dire, c'est quand même une révolution dans l'univers mental des êtres humains. Et vous pouvez trouver que c'est génial, ça n'est pas mal en soi.
Il va manquer quelque chose, moi je crois.
Ça, très inquiétant. Moi j'aimais la rencontre des sexes pour faire des enfants.
Ah bah pareil.
Voilà. Eh ben on va faire ça pendant la pub. L'offensive verte de Nicolas Hulot, on en débat dans un instant.
Je débrief après.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marco.
On refait le monde avec Elisabeth Lévy, Virginie Leguet, Nicolas Domenac et Stéphane Blakowski. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et Nicolas Hulot cita Nelson Mandela. Le ministre de la Transition écologique a donc annoncé les quatre premières mesures de son plan climat. Prime à la casse étendue aux véhicules d'occasion, chèque énergie généralisé, crédit d'impôt transformé en prime et coup de pouce pour changer de chaudière. Pour les écologistes, c'est un début, mais il faut aller beaucoup plus loin. Alors, Nicolas Hulot, avale-t-il des couleuvres ou pas, Nicolas Domenac, selon vous?
Quelle bonne question. D'abord, enfin des mesures sociales, enfin des mesures écologiques qui bénéficient à ceux qui ont le moins, enfin aux petites gens, comme on dit. Mais alors, cela étant, comment dire, c'est comme si la révolution se terminait par une prime à la casse. Autrement dit, il me fait le même effet, Nicolas Hulot, pour prendre une autre comparaison, que Yannick Noah avec l'équipe de France de tennis. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans ce gouvernement, il n'est pas là vraiment, il n'est pas tout à fait à l'aise, il n'est pas
ouais,
lui-même,
il
lui manque quelque chose. Pardon,
il est qualifié pour la finale,
oui,
en attendant.
Oui, il y est, mais.
Là, on parle
au
de Yannick
fond,
Noah.
Nicolas Hulot, on verra. Mais c'est-à-dire qu'au fond, il fait du Ségolène Royal Plus. Mais on n'en est pas à la révolution de la transition énergétique que la situation exigerait, soit au niveau français et au niveau français et au niveau européen.
C'est du moins un peu la moins-value, quoi.
Il en fait, mais au fond, on aimerait qu'il en fasse tellement plus.
Oui, je suis un peu d'accord. La montagne accouche d'une souris, avoir refusé tant
souris
de fois,
verte.
avoir accepté enfin et être ravalé à être un ministre finalement assez banal, qui propose des choses que moi je trouve extrêmement banales, qui a d'ailleurs déjà été proposées. Sauf que là, cette fois-ci, ça s'étend en voiture d'occasion, donc ça, c'est l'énorme nouveauté.
C'est pas mal, ça.
Oui, mais même il y a des choses qui avaient déjà été testées au plan départemental, qui vont être généralisées au plan national. Enfin, je trouve que c'est pas du tout révolutionnaire, ça, c'est sympathique. C'est gentillet, c'est comme il est lui, c'est-à-dire que depuis qu'il est rentré dans le rang, il n'est plus grand-chose. Et je ne sais pas s'il avale des couleuvres ou non, mais en tout cas, Emmanuel Macron ne s'était pas distingué pendant la campagne par une énorme coloration verte. Est-ce qu'il s'est dédouané en débauchant pour la première fois Nicolas Hulot, qui avait refusé toutes les précédentes invitations à entrer dans les gouvernements? En tout cas, ça ne donne rien de vraiment concret, ni rien de vraiment enthousiasmant.
Alors, moi, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il a présenté un super plan. Alors, il y avait des petites mesures du même genre, mais là, c'était pour les maisons, je crois, pour le lendemain matin.
Et il y en avait à l'horizon 2030.
À l'horizon 2030, là, on n'aurait plus que des bagnoles électriques. C'était absolument génial. C'était un truc, il y avait un espace de saut dans le vide. Et donc, tout le monde, on s'est tous extasiés sur ce grand plan très ambitieux. Mais évidemment, c'est pas ça qui a du sens. Alors, je voudrais, Nicolas a raison de dire que c'est une mesure... qui profite un peu aux pauvres. Le seul problème, c'est que ces pauvres-là, ça profite aussi un peu aux industries automobiles qu'il s'agit d'aider, c'est très bien. Et donc, on va aider les gens qui ont poussé tous ces pauvres, et notamment toute la France périurbaine, à acheter du diesel, parce que le diesel, c'était vachement bien. Et donc, maintenant, vous avez des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de fric.
On va les aider, donc.
Qui ont des vieilles bagnoles. Oui, non, mais enfin, bon, avec une prime de 1500 balles pour te racheter une bagnole neuve, tu vois.
Voire 2500 si c'est une voiture électrique.
Donc, et puis la voiture électrique à la campagne, si tu veux, je ne suis pas sûr que pour l'instant on soit suffisamment équipé. Donc, bien sûr, c'est vrai que c'est mieux de le faire, mais franchement, ces gens-là, on les a entubés. Et après, il faudra arrêter de leur raconter des cracks tous les 15 ans, des cracks qui changent tous les 15 ans.
D'ailleurs, Ségolène Royal avait proposé des choses assez similaires qui n'ont pas du tout marché, donc on n'est pas dans des révolutions folles.
Ouais, moi, j'aime bien, au contraire. Je trouve que c'est pas mal. Non, mais c'est aussi une manière de présenter.
Vous avez une diesel ?
Non. Roule de diesel. Pour moi, je suis né en 68, donc le diesel, c'est une voiture de taxi. Donc je préfère une voiture à essence. Je préfère le bruit.
Qui fait un bon bruit d'essence.
Voilà, maintenant, j'ai même une voiture hybride, pour tout vous dire. Mais j'aime bien les mesures présentées de manière positive. C'est-à-dire qu'on a souvent présenté l'écologie comme une contrainte, en disant que c'était des taxes vertes, taxes quoi, éco-taxes, taxes carbone. C'est toujours une taxe. Et donc là, juste, c'est des primes. C'est une prime à l'énergie, une prime à la voiture. Ça vise les gens les plus modestes. Donc je trouve déjà une manière de présenter les choses beaucoup plus positive.
Vous êtes d'un bon nature.
Ce qu'il y a, c'est que j'adore Nicolas Hulot. Je fais partie de ces Français pour qui Hulot est un mec de confiance. Pour moi, c'est un peu le canari écologiste du gouvernement. Vous savez, comme ces mineurs qui emmenaient un canari au fond de la mine pour détecter les fuites de monoxyde de carbone. C'est un gaz inodore. Le canari, quand il meurt, ça veut dire qu'il y a du gaz et qu'il faut sortir en vitesse. Donc, tant que Hulot est au gouvernement, tant qu'il est là, qu'il respire, et comme j'ai confiance en lui, je pense que c'est un gouvernement qui va faire des efforts, à la fois sur le court terme, et puis aussi, bien sûr, il n'y a pas de révolution. Hein. C'est un truc qui prend du temps.
J'étais un peu gênée. Moi, j'ai beaucoup aimé Nicolas Hulot jusqu'au moment où j'ai appris qu'il avait touché beaucoup d'argent avec les gels et shampoings Ushaya. Ça m'a un petit peu embarrassée.
Bah, c'est mal de gagner de l'argent.
Pourquoi il n'aurait pas touché sur sa franchise? Il a fait une émission de télé, on a gagné de l'argent derrière.
Les shampoings Ushaya sont très écologiques. Je ne sais pas s'ils sont sans aucun.
Oh là, franchement,
la petite bête. Oh la mesquinerie.
Oui, je ne suis pas gentille. C'est pas mal de gagner de l'argent.
Une précision, Marc-Olivier Fogiel, puisqu'on avait discuté ici même des mesures qu'avait annoncé le président de la République pour la construction massive de logements. Le président avait dit, et puis tant pis pour
les normes environnementales.
Les normes environnementales. Et là, au moins, Nicolas Hulot, il dit clairement, il est hors de question de renoncer aux normes environnementales. Surtout pour les pauvres gens, je veux dire, c'est au contraire, on leur doit une excellence environnementale. Je veux dire, c'est important qu'il y ait cette parole-là dans le gouvernement, avec toutes les bémols qu'on a pu mettre tout à l'heure.
Allez, dans un instant, monsieur
Pat... Juste rajouter une petite chose. Virginie. Une seconde. En revanche, j'ai entendu qu'aujourd'hui, Nicolas Hulot s'était prononcé contre le renouvellement de l'autorisation du glyphosate. Ça m'a semblé un combat beaucoup plus intéressant. Et là, je serais très impatiente de voir s'il va réussir à convaincre.
C'est un mois d'octobre, mais il faut convaincre un certain nombre.
Moi, j'attends Notre-Dame-des-Landes. Je suis très impatient de voir comment il va se comporter sur ce dossier.
Allez, dans un instant, Stéphane Bern, monsieur patrimoine d'Emmanuel Macron. On en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
Ce soir, avec Stéphane Blackowski, Nicolas Damenac, Virginie Le Guay, Elisabeth Lévy, Stéphane Bern, donc sur les traces de Mérimée à l'occasion des Journées du patrimoine. Emmanuel Macron a chargé l'animateur de RTL et le monsieur Histoire de France 2 d'une mission bénévole pour identifier les monuments du patrimoine en péril. Il devrait rendre son premier rapport dans 6 mois, mais le choix de ce proche du couple Macron fait polémique. Alors Stéphane Bern, à la tête d'une mission sur les monuments en danger, à la bonne heure ou fait du prince sur les réseaux sociaux, Benoît?
C'est très partagé, même chez les historiens. Du coup, à quand Stéphane Plaza au logement? Joseph, au contraire, trouve que Stéphane Bern a un bon réseau pour trouver des fonds et sensibiliser le public, tout en faisant bosser les spécialistes. Ben oui, super choix, Macron n'a pas simplement récompensé un courtisan zélé, ironise Poli. Éric Nolot aussi a remonté, qui tweet « Confier une mission à un membre de la cour rapprochée, le passifou du roi doit être content, la monarchie est rétablie. Lucas le défend, tout le monde reconnaît l'amour et la passion que Bern porte pour notre patrimoine, mais d'un coup, l'amnésie semble gagner certains. La question, c'est pas de savoir si Stéphane Bern est compétent, mais pourquoi on le substitue aux spécialistes dont l'État dispose déjà, précise Taïg. Oui, que va devenir la direction du patrimoine et ses fonctionnaires payés pour faire ce que vous allez faire gratuitement, s'inquiète Patricia. Gila répond que c'est de la com, on choisit une personnalité médiatisée qui se rattache de près ou de loin au thème et on met en scène une action politique. Bah c'est bien, non? Si ça motive des Français à visiter notre beau patrimoine. La com, ça sert aussi à ça, rétorque Steph. Ouais, monde étrange dans lequel c'est celui qui fait le plus de bruit, qui occupe le plus de place dans l'espace médiatique, qui est catapulté expert, hésite Caroline. Bon courage à tous ceux qui n'ont pas de château, pas de tête couronnée à vendre pour protéger leur institution. Bon courage à toutes celles et ceux qui essayent de défendre un patrimoine qui inclut l'histoire des pauvres, des anonymes et des petits, conclut-elle.
Virginie Leguet, donc, comment vous trouvez cette nomination? C'est le patron de Stéphane Blakowski, par ailleurs.
Ni tant d'excès...
N'en dites pas de mal, je vous en prie.
Ni tant d'excès, ni tant d'agitation. J'ai bien compris que la mission allait être bénévole, que Stéphane Bern a déjà dit que ça avait des réunions, il les ferait chez lui, qu'on ferait un point d'étape dans 6 mois. J'ai lu très attentivement l'intitulé. Il s'agit quand même d'une mission assez générale qui porte sur la rénovation du petit patrimoine. Donc, c'est peut-être pas non plus les grands monuments historiques que nous avons. Moi, je trouve Stéphane Bern extrêmement sympathique, extrêmement...
Ça, c'est vrai.
Extrêmement populaire et pour porter une cause finalement assez austère dont les Français ne sont...
Vous rigolez, Virginie.
Dont
en
les,
fait,
Français
les Français
se soucient.
Adorent le patrimoine.
Oui, enfin, ils adorent le patrimoine.
Il y a plein d'associations, il y a des milliers d'associations qui défendent...
Quand il faut mettre la main à la poche, quand il faut retrouver de l'argent, je termine. C'est pas si mal de les... Oui, c'est pas si mal de les sensibiliser. Et après tout, Stéphane Bern s'y intéresse. C'est vrai que c'est un ami du couple Macron. Il s'en est d'ailleurs pas caché. Il s'en est jamais caché. Il était à la Rotonde. Je crois que même que quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il avait été avec Stéphane Bern faire une inauguration. Enfin, voilà. Les choses sont assez transparentes. Moi, ça ne me gêne pas du tout.
Non, mais moi, d'abord, je pense que là, Emmanuel Macron, il fait un coup, parce que Stéphane Bern est extrêmement populaire et à juste titre. Et d'abord, il y a une raison tout à fait claire pour le défendre, c'est qu'il a déjà les historiens de garde, là, les vigilants, en fait. Évidemment, il ne serait pas légitime. Offenstadt s'est immédiatement rué là-dessus en disant qu'il avait une vision de l'histoire étriquée, et biaisé, ce qui veut dire qu'il n'est pas de gauche. Alors ça, vraiment, ça, c'est vraiment pas tolérable. Donc, et, je veux dire, évidemment, il a eu un peu tort de dire que ce n'était pas comme ami du président, c'est aussi comme ami, mais moi, ça ne me choque pas qu'on confie à un ami une mission pour un truc sur lequel il est doué. Donc,
une mission bénévole, en plus.
Évidemment, bénévole, bien sûr. Oh là là, ils sont pas dingues, là, je pense. Donc, je pense que ça veut dire aussi que Macron, je ne sais pas si c'est que de la com' ou si ça dénote un réel intérêt, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il sait justement le souci que les Français, je vous assure, vous dites que les Français ne mettent pas la main à la pâte, c'est faux.
À la poche.
À la poche aussi, il y a toutes ces assos font un travail dingue. Elles font des procès aussi pour empêcher un certain nombre de choses et de saccages, et elles sont extrêmement actives.
Moi, je m'inquiète un peu pour Stéphane Bern. Vous l'avez dit, j'aime bien Stéphane Bern, mais justement, c'est pour ça que je m'inquiète Stéphane pour lui. Je me souviens que l'an dernier, je travaillais avec lui et il avait été assez surpris, un peu peiné surtout, de voir des réactions après son passage à la Rotonde. Il disait, mais je comprends pas, c'était pas du tout, ça n'a rien à voir avec le Fouquet, les gens sont haineux sur les réseaux sociaux, et j'ai peur que ça se repasse de la même manière et que on associe ça à une nomination. Bien sûr, il n'a pas été ministre, mais on pense que c'est une sorte de privilège qu'on lui accorde. Il aura beau se défendre dans tous les sens, j'ai peur que ça soit une fixation pour une part.
Mais quel privilège,
mais il est peut-être plus costaud que ce que vous pensez. Moi, je l'ai entendu dire, mais quand l'État vous demande quelque chose, moi, on le fait.
Où est le privilège? C'est un boulot.
Mais Nicolas Damanac.
D'abord, premier point.
C'est un privilège.
Moi, je suis carrément enthousiaste. D'abord, parce qu'il y a un certain Marc-Olivier Fogiel qui a fait un tweet pour dire que c'est un excellent choix.
Voilà.
Je ne vais pas dire le contraire.
Merci.
Mais en plus,
je voyais justement la polémique autour de Stéphane. Je dis, merde, il faut le soutenir.
Non, mais en plus, je pense que c'est le choix du roi et de la reine d'ailleurs, mais c'est un choix parfait parce que aujourd'hui,
c'est un privilège. Voilà, alors,
aujourd'hui, c'est une personnalité populaire, il en faut.
C'est le successeur d'Alain Decaux, c'est l'homme qui sait faire vivre l'histoire. Il est super sympa, super compétent. Il sait faire vivre tout ça. Alors, en plus, si on a besoin, le patrimoine français en a besoin. Il a besoin de relais comme ça.
Mais ça, c'est des bonnes qualités pour faire une émission de télé, mais est-ce que c'est des bonnes qualités pour faire vivre
auprès des gens? Il est hyper populaire et il saura se faire entendre. Mais alors, ce qui me fait rire, il y a un point qui me fait rire, c'est qu'il a évoqué Prosper Mérimée, qui avait exercé cette fonction-là autrefois avant lui. Alors, et il dit en même temps, mais moi je la ferai que 6 mois. Il faut dire que Prosper Mérimée, il l'a fait 26 ans. Alors, je retrouverai Stéphane Bern dans 26 ans, et je vous rappelle quand même que Prosper Mérimée, c'est grâce à lui qu'on a l'abbaye de Vézelay, comme ça, qui a été sauvée, par exemple, les murailles d'Avignon qui ont été sauvées, ou même Notre-Dame, on lui doit énormément de choses.
Il ne fera que les petits bâtiments, Stéphane Bern.
Oui,
les églises, il y a un nombre d'églises. qui tombe vraiment en décrépitude en France et où il y a des merveilles, qui tombent.
Moi, je souhaite bonne chance.
C'est notre, bah, bien sûr, mais
ça va marcher. C'est notre prospère Youplaboum. Hein. Je veux dire, vraiment, il
notre
est là
prospère,
pour ça.
Youplaboum.
Allez, il nous reste un tout petit peu de temps après la publicité. On va parler des divisions au FN puisque Marine Le Pen demain est l'invitée d'Elisabeth Martichoux. Vous avez peut-être suivi dans le week-end donc Florian Philippot qui a posté une photo où il mange un couscous. Et alors, c'est l'émoi au Front National. Choucroute contre couscous. Et Marine Le Pen qui voudrait faire la peau de Florian Philippot. On en dit deux mots quand même dans un instant rapidement.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et ce soir avec Nicolas Domenech, Virginie Legay, Elisabeth Lévy et Stéphane Blakowski. C'est la crise donc au FN. Tout part d'un couscous, non, ça c'est que j'exagère, mais c'était ce week-end, il y en avait partout sur les réseaux sociaux, donc même un tweet de Gilbert Collard, Benoît Galeret.
En effet, qui a essayé de calmer le jeu à midi en disant, après toutes les remarques de militants frontistes qui étaient outrés que Florian Philippot mange un couscous à Strasbourg, je reconnais un droit imprescriptible à Philippot de manger du couscous en paix, d'autant que lorsqu'on mange, on se tait. Voilà pour la bonne ambiance retrouvée au Front National.
Florian Philippot qui dit qu'il faudrait clarifier au FN la tambouille interne. Comment ils vont en sortir de cette crise selon vous, Elisabeth Lévy ?
Ça, j'en sais rien, mais je dois dire que je suis assez frappée par cette affaire de couscous, parce qu'il me semble que précisément... Non mais, si vous voulez, ça, je la trouve d'ailleurs assez désespérante, parce que précisément, si vous voulez, c'est la différence. On peut avoir des discussions sur des différences qu'on n'intègre pas, mais ça, c'est complètement absurde. Je veux dire, c'est vraiment le simple fait qu'on ait des gens de cultures différentes sur notre sol veut dire qu'il y a des cuisines d'absolument partout, et ça... C'est vraiment idiot, si vous voulez, de donner prise de leur part.
Disons que ça, bon, c'est l'anecdote du week-end.
Ça me frappe parce que ça dénote forme de racisme ethnique pour le coup, parce que ça s'adresse pas à une différence problématique. C'est pas la burqa, c'est pas je veux dire, un truc qui va contre nos mœurs.
Au-delà du couscous, il y a une crise interne.
Au-delà
FN,
de ça,
il y a sans doute des gens qui veulent face à Marine Le Pen.
Écoutez, honnêtement, je n'ai pas suivi ça avec. Mais il y a sans doute des gens au FN qui veulent revenir sur la ligne du vieux. Si vous voulez, je ne sais pas exactement dans
quel... Nicolas Bay, notamment.
Notamment Nicolas Bay. Et surtout, moi, ce que je ne sais pas, ce que j'ignore, c'est si Marine Le Pen peut surmonter, disons, le trou d'air en termes d'image et de popularité qu'elle a auprès de ses militants.
Votre avis, Virginie ?
En tout cas, Florian Philippot est l'homme à abattre en ce moment, et cette histoire de couscous n'a été qu'un prétexte pour tous les proches de Marine Le Pen pour lui tomber dessus à bras raccourcis. C'est Gilbert Collard, c'est Louis Alliot, c'est Nicolas Bay, c'est tous ceux qui veulent que Florian Philippot s'en aille. Et Florian Philippot, qui a longtemps été... l'âme damnée de Marine Le Pen est aujourd'hui en disgrâce, et je pense que la création de son association Les Patriotes au printemps dernier a été franchement la goutte de trop.
Elle lui a demandé pour faire rapide, mais la semaine dernière, grosso modo, de choisir à un moment donné, il y a la crise au FN et il faut pas s'occuper. Et il a dit non, je garderai ma présidence des Patriotes.
Oui, mais du coup, je crois que par orgueil ou par entêtement, il est en train de se mettre lui-même dans une position intenable.
Par psychorigidité, peut-être.
Oui, je ne sais pas s'il va pouvoir rester longtemps à l'intérieur d'un mouvement dont la ligne change et dont l'appareil, quasiment dans sa totalité, le rejette. Donc, combien de temps Philippot va pouvoir rester seul, assiégé...
Sans le soutien de la chef, surtout.
Sans le soutien des trois quarts de l'appareil, et sans Nicolas le soutien de Marine Le Pen, qui va être obligé de trancher.
Florian Philippot, s'il était amené à partir, vous pensez que ça fragiliserait concernant le... Ou alors ça renforcerait le FN, qui serait plus clair, d'une certaine manière?
Non, je crois que ce sera un manque très, très lourd hein, pour ce parti, parce qu'il lui a apporté, au fond, ce qu'il avait appris chez Chevènement, un peu à la gauche, tout un côté social, un côté aussi... souverainiste, fort, articulé, il y avait une pensée. Mais moi, je ne crois pas que ce débat sur le couscous puisse être réduit simplement au fait qu'il pédale dans la semoule, si je peux me permettre. Il y a une dimension symbolique qui est forte, parce que c'est la ligne identitaire qui se paye comme ça Philippot, parce qu'au fond, cette ligne identitaire, elle s'accroche, je veux dire, à des vêtements, à des façons d'être, et aussi à ce qu'on mange. Et c'est là où on voit la folie de cette ligne-là. C'est-à-dire, au fond, il ne faut plus manger des choses qui, alors en ce moment, on ne mangera plus rien, mais elle s'accroche au couscous parce qu'il n'a pas mangé de choucroute à Strasbourg. Mais la choucroute, elle vient de Chine aussi. Enfin, bon, c'est la folie de cette ligne-là.
Ouais. Non, mais alors, l'inconvénient de parler quatrième, c'est que, ouais, moi je suis d'accord avec Nicolas, ça prouve quelque chose. Ça prouve justement qu'il y a une manière de FN de radicaliser le débat et que les positions qui l'emportent là dans ce débat, c'est celle des identitaires. Ouais. Alors que le couscous, on a déjà eu des sondages, je sais pas s'ils sont toujours d'actualité, où c'était le plat préféré des Français ou le deuxième plat préféré des Français. Donc, quelque chose qui est vraiment. qui fait partie de notre gastronomie aujourd'hui, et qu'il y ait au FN des gens qui désignent le couscous comme l'idée que voilà la preuve qu'on est un mauvais Français, je trouve ça assez inquiétant pour la tournure que prend le FN en ce moment.
Et c'est surtout ce qui m'inquiète aussi, c'est que ça, ce qui m'inquiète, c'est que ça discrédite justement toute inquiétude identitaire. Je veux dire, l'identité, c'est pas forcément de regarder le couscous. Je veux dire, la question, l'inquiétude, l'aspiration identitaire, l'aspiration à être un peuple, ça se réduit pas à détester le couscous.
Apparemment, au Front National, ça se réduit à ça, donc c'est un peu inquiétant.
Je ne crois pas non plus.
Je voulais simplement dire que
pas d'amalgame.
Je suis très frappée de voir le trou noir dans lequel s'enfonce le Front National, qui semble sans fond depuis quelques mois, alors que le Front National est arrivé au second tour et a fait les meilleurs scores de toute son histoire. Mais il semblerait que sa présidente soit tellement décrédibilisée qu'elle n'arrive plus à imprimer ni à porter quoi que ce soit pour l'instant comme idée un peu solide, et ni même à tenir ses troupes.
On verra ça demain, puisqu'elle est l'invitée d'RTL d'Elisabeth Martichoux. Merci à tous les quatre. Dans un instant, Céline Landreau, et ensuite, c'est Jacques Pradel. L'heure du crime. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Marc-Olivier.
Au sommaire ce soir, Jacques.
Alors, un retour sur le procès en appel de Fabienne Cabou pour son infanticide. Oui. Voilà, elle a été condamnée à 15 ans de réclusion criminelle vendredi dernier, et tout le monde sait que la question de la folie a été au cœur des débats. Nous y revenons avec mes invités dans un instant.
À tout à l'heure, Jacques, après le flash de 20h.
Tout à l'heure.
Vous écoutez RTL.